Nous avons entendu dans la parole d'introduction que Dieu exauce les prières et que nous pouvons venir au trône de la grâce dans la certitude que notre Seigneur, comme souverain sacrificateur fidèle avec son propre sang qu'il a versé ici sur terre, il est entré dans le sanctuaire céleste et il l'a placé là sur le trône de la grâce. Et il est souverain sacrificateur, il est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et il intervient, il intercède pour nous aussi ce soir, il intercède pour nous de manière que dans la foi et dans la confiance, nous pouvons venir au trône de la grâce. J'ai aussi des salutations à remettre du monde entier, on pourrait le dire. Des salutations de Nairobi, de Johannesburg, de Kapstadt, de Kinshasa, de Bunjimaï. Des salutations de partout. Nos frères sont liés avec nous et nous remercions Dieu de tout notre cœur pour les possibilités que nous avons, par des voyages personnels ou par les brochures qui sont envoyées et aussi par l'Internet. C'est ainsi que nous avons communion avec nos frères et nos sœurs dans le monde entier et nous sommes liés avec tous. Nous aussi d'ici nous remettons nos salutations à tous dans le monde entier. Des salutations du Chili, j'ai à remettre aussi du Pérou, du Canada, des salutations des États-Unis, de partout, des frères nous ont salués et nous saluons aussi tous d'ici. En haut du nord, donc en commençant avec la Finlande, tel que l'avons entendu du frère Schmitt, nos bien-aimés frères et sœurs en Israël, aussi nous avons là-bas 9 frères et sœurs en Israël qui se rassemblent et pour voir ensemble les DVD, les vidéos et qui sont liés avec nous. Et nous les saluons aussi très, très fraternellement et cordialement. Ensuite, nous avons nos frères ici des pays voisins, de la Belgique, de la France, de la Suisse, de l'Autriche, de la Slovaquie, de la Roumanie et de la Tchèque, de partout. Dieu, le Seigneur, qu'il puisse bénir tous. Quand ensuite nous écoutons que même tout un bus de la Roumanie est venu et un petit bus de Lyon est aussi venu, alors nous savons estimer cela et nous savons alors ce que la parole de Dieu signifie pour nos frères, c'est-à-dire exactement ce qu'elle nous signifie. Vous savez que après ces voyages fatigants par l'Afrique et puissants et importants, pendant lesquels Dieu, au-dessus de toute mesure, a béni, nous avons entendu de très bons témoignages, de toutes ces différentes réunions, même dans des villes où des assemblées et des églises s'étaient séparées et divisées. Les frères se sont réconciliés et maintenant se rassemblent ensemble. Et Dieu, par sa parole, a produit la réconciliation, le pardon et la grâce et la miséricorde. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cela. Ensuite, nous avons à Bratislava aussi nous avons eu une réunion très puissante. Tous nos frères et nos sœurs du pays aussi de la Tchèque étaient là-bas rassemblés et Dieu a béni puissamment. Et cette salle énorme, comme du temps de la monarchie, de telles salles existent seulement à Vienne, à Prague et à Bratislava, et ensuite probablement à Timisoara. C'est une salle de fête spacieuse comme on ne pourrait pas aujourd'hui la bâtir et la construire. Elle était remplie et nous étions très reconnaissants pour cela. Tous, vous savez qu'en Roumanie, Dieu fait vraiment toujours de nouveau de grandes choses. Il y avait même le centre culturel, la plus grande salle de la ville était remplie, peut-être à peu près 3000 personnes étaient rassemblées et Dieu a accordé beaucoup, beaucoup de grâce et a béni. Nous sommes liés avec nos frères et nos sœurs très, très fraternellement et nous remercions Dieu pour cela, de ce que nous avons la possibilité de porter la parole et nous remercions Dieu de ce qu'il y a des hommes dans tous les pays et les villes qui croient la parole de l'heure et qui prêtent l'oreille à ce que l'Esprit dit aux églises. Et encore, nous remercions Dieu réellement de ce que le frère Rousse aujourd'hui est ici. Nous remercions Dieu de tout notre cœur et tous nous avons ressenti ce que signifie être liés ensemble, ce que signifie le vrai amour. On peut parler de l'amour, ça c'est une chose, mais de l'avoir et d'être lié profondément les uns avec les autres, ça c'est tout à fait une autre chose. Donc, nous nous réjouissons dans le Seigneur et nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu fait. De l'autre côté, nous avons aussi constaté comment est-ce que la politique et la religion font des choses communes ensemble. Ici, il est écrit « Allah pour tous ». Et imaginez-vous cela, représentez-vous cela, c'est contre le combat contre l'islam, je ne sais pas qui l'a, mais ici c'est écrit, dans le combat contre la haine, de la haine contre l'islam, c'est ainsi qu'un archevêque catholique a eu une idée. Il a proposé que les chrétiens, les juifs et les musulmans devraient dans le futur, comme désignation pour Dieu, tous utiliser le mot Allah. Tous. Juifs, chrétiens et moi. Je pense que il n'est pas nécessaire de faire ici un commentaire. Et il est écrit après cette phrase, pour Dieu, ça n'a pas d'importance. Comment est-ce qu'on le nomme? Je crois que ça, c'est pas vrai. Mais Allah est réellement, et ça, beaucoup ne le savent pas. Et même non plus ceux qui ont fait beaucoup d'études. Allah est le vieux Dieu de la lune qui, selon la foi des Babyloniens autrefois, procurait la fécondation à toute la végétation. Et c'est ainsi que c'était le Dieu que Mohammed servait, que Mahomet servait et suivait. Et après avoir conquis toute cette tribu, c'est ainsi que Mahomet a consacré toute cette tribu-là à ce Dieu qu'il servait et il lui a consacré donc un lieu appelé la Mecque où tous devraient venir l'adorer. Allah n'a rien à voir à faire avec Elohim. Elohim est le Dieu d'Israël. Elohim est le créateur du ciel et de la terre. Dans le Testament hébreu, il est écrit dans Genèse chapitre 1, au verset 1, au commencement, Elohim créa, et au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Et ce nom de Dieu, en liaison avec Yahvé, est écrit plus de 6000 fois dans l'Ancien Testament. En combination, cette combination-là, Elohim Yahvé, est écrit plus de 6000 fois dans l'Ancien Testament. Elohim Yahvé. Nous sommes très très reconnaissants à Dieu pour la parole qu'il nous a révélée et nous n'allons pas la mélanger avec la politique, mais nous allons la conserver pure et laisser le royaume de Dieu rester royaume de Dieu et les politiciens et les religieux leur remettre leur domaine. Mais nous avons constaté la chose suivante, que la politique et la religion font des choses ensemble et communes. Même Shimon Peres a annoncé sa visite au Vatican. Bon, je le dis, qu'ils puissent tous faire ce qu'ils ne peuvent pas laisser abandonner. Nous, nous avons pris cette décision de servir Dieu le Seigneur et de croire seulement comme l'a dit les Écritures. Ce que les hommes font, ça reste leur affaire. Ensuite, nous avons une lettre circulaire que nous venons d'écrire. Et nous avons exprimé dans cette lettre circulaire quelle responsabilité est liée à un appel divin, est liée à un envoi divin qui est une partie directe et qui contient une partie directe de l'histoire du salut. Nous avons brièvement touché l'Ancien Testament et mentionné quelle responsabilité avait Noé, Abraham, Moïse, Élie. Et nous avons toujours de nouveau, nous sommes toujours de nouveau venus à ce résultat. Il n'y a pas eu une plus grande responsabilité sur terre que celle-ci adressée à ceux que Dieu avait appelé, envoyé et pour un objectif bien précis, leur avait donné un ordre à exécuter. Chaque homme de Dieu avait reçu son ordre bien particulier. Noé devait bâtir l'arche, Abraham avait son ordre à exécuter. Et à quoi ? Et c'est ainsi que par la vie d'Abraham, déjà, une partie de l'histoire du salut a été montré. Moïse avait reçu son ordre et aucun autre homme sur terre du temps de Moïse pouvait avoir un tel ordre, un tel mandat, une commission comme Moïse l'avait autrefois et un tel envoi directement lié avec ce que Dieu avait promis déjà du temps d'Abraham et ensuite ce que Dieu était en train d'accomplir dans son temps. Et pour le dire encore au commencement de l'Église, au commencement du Nouveau Testament, Dieu a envoyé un prophète appelé Jean, et ensuite il est réellement écrit de manière très bien, Jean 1, verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il n'y avait pas eu un deuxième dans le même temps qui aurait pu avoir une responsabilité semblable, un ministère semblable, un appel et un envoi semblable. C'était un homme envoyé de Dieu et cela suffisait pour remplir l'ordre de Dieu de l'heure et pour lequel il était déterminé. Nous avons brièvement mentionné aussi Pierre. Il n'y avait pas un deuxième Pierre. L'ordre du fondement de l'Église du Nouveau Testament qui avait reçu devant Dieu une même responsabilité telle que Pierre l'avait eue, qui était déterminée dans l'heure de la naissance de l'Église et du Nouveau Testament de tenir la première prédication. Si nous faisons un pas de plus, il n'y a pas eu un autre homme qui avait une telle responsabilité comme celle de Paul dans son époque, qui pouvait prendre chaque sujet, chaque thème qui concerne l'Église et le traiter et le mettre par écrit et l'envoyer aux Églises et mettre tout à sa place de manière biblique, d'une manière que la vie de l'Église en général soit décrite dans la volonté de Dieu. Bien sûr, nous allons même jusqu'à Jean sur l'île de Patmos. Il n'y a pas eu un deuxième homme qui, dans la même époque, aurait pu avoir reçu la même responsabilité, c'est-à-dire de recevoir la même révélation sur ce qui allait arriver dans le futur et d'écrire tout ce qu'il a vu et entendu pour que nous puissions aujourd'hui la voir. Et bien-aimés frères et sœurs, disons les choses telles qu'elles sont. Si nous ne savions pas que Dieu, dans notre temps, avait accompli une promesse, et a fait en sorte que la promesse qu'il avait donnée pour cette époque va son accomplissement. Selon la parole de l'Écriture, voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Et il y a réellement pas eu un autre homme sur terre dans le 20e siècle qui aurait pu aussi, comme frère Branham, connaître le jour, l'heure, le mois, l'année exactement, quand est-ce qu'il a reçu un ministère divin, un appel divin qui est directement promis dans la Bible et lié à l'histoire du salut de notre Dieu. Je le mentionne pour la raison suivante. Pour donner à tous la certitude finale pour leur marche, nous ne sommes pas des gens qui construisent des fables habilement conçues, mais nous n'avons pas non plus suivi un homme. Mais nous avons eu la grâce de reconnaître le jour, l'heure et l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Et selon la parole de l'Écriture, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, justement parce qu'il est un prophète, il recevra le salaire d'un prophète, la récompense d'un prophète. Et nous avons le respect, reçu le respect devant la parole de Dieu, pour la parole de Dieu, et nous avons conservé ce respect pour avoir la grâce de voir la promesse qu'il a donnée dans son accomplissement. Et que justement maintenant encore, nous devons recevoir des responsabilités ensemble pour porter ensemble la parole du Seigneur. Et je le dis pas pour m'élever, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Où est-ce que sur terre il y a encore un endroit où seulement la parole dans sa forme cristalline est crue, sans interprétation, sans pensée humaine, seulement que ce soit n'importe où, montrez-moi à l'intérieur de ce message-là, où est-ce qu'il y a encore un lieu comme ça où on laisse seulement les choses telles que c'est écrit et tout à sa place. Nous avons seulement lié à cela un désir, que nous en tant qu'Église, dans le monde entier, nous soyons apportés dans l'état et dans la position où, tel que nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, où nous devons comprendre que Dieu voulait habiter sur terre. Dieu voulait habiter parmi son peuple. Ensuite, nous lisons concernant notre Seigneur et Rédempteur, que en lui a habité toute la plénitude de la divinité. Et ensuite, nous lisons que en lui, vous avez cette plénitude en lui. C'est ce qui est écrit dans Colossiens 2, verset 9. D'abord, la plénitude. Donc, Dieu a habité corporellement en Christ. Il pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ensuite, la promesse donc a été donnée. Je vais et je vous envoie le Consolateur. Il viendra je viendrai en vous et j'habiterai en vous. D'abord, Dieu parmi nous, avec nous, dans son Fils, seul engendré par lui, Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, Dieu en nous, nous qui sommes devenus fils et filles de Dieu, pour devenir un temple du Saint-Esprit. Et c'est maintenant que cette parole ici s'ajuste de 2 Corinthiens, le chapitre 6. 2 Corinthiens, le chapitre 6. Une parole adressée à nous tous et connue de nous tous. À partir du verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Rien, il n'y a aucun rapport. L'un n'a rien à voir avec l'autre. Et nous sommes le temple de Dieu. Ensuite, nous continuons, car nous sommes, n'est-ce pas, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça, cela doit s'accomplir maintenant. Et vous allez tout de suite remarquer à qui est que cette parole est adressée, c'est-à-dire à ceux qui sont appelés à sortir, à ceux qui sont sortis, qui ont suivi l'appel à sortir. Continuons à lire à partir du verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit ordonne le Seigneur en allemand. Ordonne le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ici, nous avons l'ordre biblique. Comment est-ce que les choses doivent être et comment est-ce que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cela est? Dieu habite pas dans un temple fait de main d'homme. Dieu habite en toi et en moi. Et tel celui qui lit dans Hébreu, il est même écrit là-bas, dans cette épître, tel que Moïse était fidèle dans toute la maison sur laquelle Dieu l'a établi, c'est ainsi que Christ, le Fils, est fidèle sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Et sa maison, c'est nous. Un endroit, un lieu de la révélation de Dieu lui-même, de la manifestation de Dieu lui-même. Donc, nous avons eu des années d'enseignement derrière nous, d'introduction dans tout le conseil du salut de notre Dieu. Et maintenant, il s'agit toujours plus que cela soit exprimé, et cela est toujours plus exprimé, que le désir que Dieu veut habiter, marcher, se manifester parmi nous est là, et particulièrement que des hommes soient remplis du Saint-Esprit, et que ils deviennent ainsi le temple de Dieu. Un temple doit remplir son objectif, c'est-à-dire être habité, être rempli, et si nous disons que nous sommes le temple de Dieu, nous devons être remplis de Dieu pour que Dieu, par nous, puisse marcher et habiter par nous ici sur terre et marcher sur cette terre et avoir son chemin. La parole sur la restauration de toutes choses, nous l'avons souvent entendu et nous lisons quelques paroles déjà dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Déjà dans le psaume 74, dans le psaume 74, il est écrit à partir du verset 2. Psaume 74, à partir du verset 2. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme le tribut de ton héritage. Déjà dans l'Ancien Testament, cette expression église ici en allemand, souviens-toi de ton église que tu as acquis autrefois, de ton assemblée. Déjà cette pensée assemblée ou bien église est dans l'Ancien Testament contenue. Souviens-toi de ton assemblée, de ton église que tu t'es acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Ensuite, il est écrit bien sûr aussi au verset 4. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Nous ne voulons pas continuer ici à lire peut-être le verset 8 encore. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Sur terre, Dieu n'a jamais eu de place. Les hommes voulaient toujours marcher dans leur propre chemin. Et aussi le peuple d'Israël avait sur terre aucune place. Ils sont allés de pays en pays, de peuple en peuple, d'une captivité à une autre. Ils sont allés. Le chemin du peuple d'Israël était le chemin le plus difficile qu'un peuple sur terre pourrait suivre. Et soyez une fois sincères, si aujourd'hui et nous écoutons et nous regardons autour de nous, partout, bien-aimés frères et sœurs, nous avons des frères et des sœurs qui passent par des difficultés et des épreuves et des problèmes. Nous sommes incompris. Personne ne nous comprend. Pourquoi ? parce que les hommes ne sont pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu. C'est seulement nous, tel qu'un cantique le dit, nous, en tant comme comme une seule tribu, nous combattons comme un seul homme. Seulement celui qui est né de Dieu. Et ça, c'est en fait pas seulement un sujet, mais c'est aussi très, très important. Et que je puisse dire cela ici assez clairement. Quand nous regardons, si nous regardons dans le passé, alors nous savons que beaucoup d'hommes prétendent être baptisés du Saint-Esprit. Et ensuite, nous avons cette expression de Frère Branham, cette citation de Frère Branham. Il a montré trois cercles et l'intérieur est l'âme. Ensuite, le deuxième cercle, c'est l'esprit et le troisième, donc l'extérieur, c'est le corps. Et Frère Branham a enseigné que beaucoup ont été baptisés du véritable et même remplis du Saint-Esprit dans le deuxième cercle, c'est-à-dire dans l'esprit, mais même pas dans leur âme, née de Dieu, née de nouveau, parce que la semence a manqué, parce qu'il n'y a pas de semence. Et c'est justement la différence entre les vierges folles et les vierges sages. À quoi est-ce que sert une onction? À quoi est-ce que sert des miracles, des signes, des prodiges et des prédications? Le Seigneur a dit déjà sur le serment sur la montagne, la pluie tombe sur les bons et les méchants, le soleil brille sur les justes et les injustes. Tout ce qui est dans le champ reçoit la même pluie, le même soleil. Et ensuite, la différence est faite par la semence. Seulement, la semence qui a été semée peut produire selon son espèce. Et maintenant, nous revenons à ce point très, très important. Que d'abord, nous, en tant que vrais croyants, nous soyons réellement nés d'en haut pour une espérance vivante et que la nouvelle naissance ait eu lieu avec nous avant d'être remplis du Saint-Esprit. Tous nous savons, et par expérience aussi, nous l'avons expérimenté, nous avons vu ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans les années 70 et aussi autrefois, tout ce que nous avons dû supporter, des gens qui d'un côté étaient loin et d'un autre côté sont loin, mais ne sont pas nés de Dieu. Et ensuite arrive le temps où la haine et la jalousie et l'inimitié et l'adversité peut être parmi les croyants et le vieil homme tel qu'il est encore là, soit quoi qu'il soit loin, est manifesté. Dans l'Ancien Testament, il nous a été dit et promis, je ferai une nouvelle alliance avec vous. Je vous donnerai un nouveau cœur et un nouvel esprit. Et une nouvelle vie. Et j'habiterai ensuite parmi vous et je marcherai parmi vous et je serai votre Dieu. Donc, l'Église appartient au Seigneur. L'Église, elle appartient au Seigneur, pas à un homme. Le troupeau des rachetés, pas pour lequel le Seigneur a donné le prix sur la croix à Golgotha. Nous sommes rachetés. Nous lui appartenons personnellement. Et lié à cela, notre passé de perdu est effacé. Nous sommes sauvés et nous avons expérimenté le pardon de nos péchés et la justification par la foi. Et ensuite, la parole comme semence entre dans notre cœur, est implantée en nous. Et c'est ainsi qu'elle produit selon son fruit, selon son espèce. Et la nouvelle vie de Jésus lui-même est manifestée en nous et par nous. Encore d'un autre verset dans le psaume 74, au verset... ce qu'il a lu tout à l'heure, psaume 74, au verset 2. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme le tribut de ton héritage. Sommes-nous conscients que nous avons été rachetés comme le tribut de son héritage? Dans le psaume 74, 79, dans le psaume 79, aussi, directement à partir du verset 1, psaume 79, à partir du verset 1, ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton Saint-Temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs, etc. Ici, il s'agit principalement du premier verset. Ô Dieu, c'est un cri de détresse du cœur. Ô Dieu, les nations ont envahi ton sanctuaire, ton héritage. En allemand, ton sanctuaire. Ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. C'était autrefois Antiochien qui n'avait rien d'autre à faire de grave que de sacrifier un cochon sur l'autel de Dieu, un cochon, et Dieu est ainsi blasphémé et insulté Dieu en face. Antioche qui a, et c'est ainsi que il aussi en ce qui concerne le manger et le boire, cela avait été donné, n'est-ce pas, au peuple d'Israël. Ici, il est dit, ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Ils ont profané ton Saint-Temple. Qu'est-ce qui s'est passé aussi en parallèle avec l'Église du Nouveau Testament, après le temps des apôtres? Les nations ont envahi l'héritage de Dieu. Ils ont établi un concile l'un après l'autre. Tout ce qui venait de Dieu, tout ce qui était divin, tout ce qui avait son origine en Dieu a été ôté, a été transformé et tordu. L'enseignement original des apôtres a été annulé et ils ont mis à la place ce qui a été décidé dans des conciles. Mais ce que notre Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, a dit, demeure valable avec toute sa clarté. Je bâtirai mon église. Les séjours des morts ne provoqueront pas contre elle. Cela est à lire dans Matthieu 16, particulièrement dans les versets 15 et ensuite jusqu'au verset 20. Ici, nous avons une clé. Nous avons un accès. Il nous a montré comment est-ce que cela se passe. D'abord, il s'agit de la révélation. Il y en a qui disent l'un et l'autre. Ici, la question a été posée. Qu'est-ce que disent des hommes qui je suis? Et les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et ensuite, la réponse, la révélation vint. La réponse est posée, la question est posée et la révélation suit. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. As-tu reçu cette révélation? Oui, je le pense. Dites Amen. Oui, nous avons cette révélation que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant et que dans le Fils de Dieu, nous avons reçu l'établissement dans l'adoption. Nous avons reçu l'adoption. C'est ainsi que ça trouve son accomplissement, ce qui est écrit dans Hébreu. Après qu'il ait conduit plusieurs fils à la gloire. Le Fils de Dieu, ça c'est Hébreu 1, verset 10, a payé, ou bien 2, verset 10, a payé le prix pour tous les fils et les filles de Dieu à Golgotha. Et ensuite, il leur a accordé l'adoption. Et c'est seulement après que ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est au ciel. Et ensuite, après cette révélation puissante, nous lisons, et moi je te dis, au verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre. Nous avons déjà eu souvent à parler de ça. Nous avons réellement deux paroles différentes. L'une est Pétros et l'autre c'est Petra. Chacun, dans chaque dictionnaire peut le lire. C'est ainsi que notre Seigneur a dit à Pierre, tu es Petros, mais sur Petra, je bâtirai mon église. Et Jésus-Christ est le rocher, est le roc sur lequel l'église est bâtie, a été bâtie. La révélation de Jésus-Christ. Et c'est seulement après qu'il est écrit, je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu lis sur la terre sera lié aussi au ciel et ce que tu délies sur la terre sera aussi délié au ciel. Ça, c'est la puissance, l'autorité absolument divine à cause de la révélation que Dieu lui a donnée, le Seigneur lui a donnée. Il a reçu l'autorité et il a reçu ainsi une responsabilité devant le Dieu Tout-Puissant. Ensuite, nous continuons à lire, particulièrement dans 1 Timothée, au chapitre 3, concernant l'Église du Dieu vivant en tant que pilier et appui de la vérité. Pas de mélange, mais elle est un produit pur, elle est un matériel. Le matériel pour le bâtiment est pur et pour l'Église du Dieu vivant. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, nous allons de verset biblique en verset biblique pour voir que l'Église de Dieu est l'appui et la colonne de la vérité. Elle est porteuse de la parole de Dieu. Oh, quel grand privilège, quelle grande et haute détermination nous avons. Et dites-moi, est-ce qu'il y a une plus haute détermination que celle-ci qui est donnée à l'Église de Jésus-Christ qui a été préparée pour l'Église de Jésus-Christ d'être porteuse de la parole de Dieu, pas porteuse des interprétations, mais porteuse de la parole originale, et que des hommes disent ce qu'ils veulent. De toutes les manières, nous sommes porteurs de la parole de Dieu dans ce temps dans lequel nous sommes. Et lié avec cela, nous portons une très grande responsabilité devant Dieu en tant qu'Église, comme Église. Et ensuite, nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 27, que Dieu, dans l'Église, a établi les différents ministères et services. Et ensuite, nous sommes arrivés déjà au point qui touche ce sujet de la restauration et le rétablissement de toutes choses. Alors, si nous croyons que Dieu nous a envoyé le message pour que justement tout soit rétabli tel que c'était dans l'Église primitive, maintenant à la fin, dans l'Église du Nouveau Testament. Et nous avons l'exemple, il s'agit, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 13, dans un seul esprit, pour former un seul corps, être baptisé. Et c'est seulement dans le corps du Christ que les dons et les ministères travaillent en harmonie l'un avec l'autre et servent toujours à l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Nous avons ici, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, particulièrement à partir du verset 4, et ensuite cela continue. Que chacun a un don, a un service reçu de Dieu, et cela par le même esprit. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons être dans l'attente, nous devons savoir que c'est ce que Dieu nous a promis. Cela est écrit pour nous. Cela nous appartient. Ça, c'est notre héritage. Car l'Église doit et va à la fin être telle qu'elle était au commencement. Et ensuite, nous avons ici, dans le même chapitre, dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 27, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les uns comme apôtres, deuxièmement, comme prophètes, troisièmement, comme docteurs, etc., etc. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, etc. C'est Dieu qui a établi, c'est Dieu. Alors nous devons commencer à prier et dire, bien-aimé Seigneur, Jean-Baptiste a parlé de toi et a dit de toi, faisons mention d'abord de lui, je baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Nous devons, comme corps du Seigneur, être joints, être soudés ensemble, comme une unité divine, ayant le même esprit, et ainsi se tenir ensemble à la disposition du Seigneur. C'est ainsi que nous avons dans l'Épître aux Éphésiens, aussi très connu de tous, Éphésiens, le chapitre 4, où il est parlé que les ministères dans l'Église servent, ont été donnés à l'Église pour que les croyants soient préparés et conduits jusqu'à grandir dans la stature de l'homme parfait en Christ et être revêtu de la puissance d'en haut pour le ministère de l'Église. Ici dans Éphésiens, à partir du verset 11, donc Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, au moins jusqu'au verset 16, où ce que le Seigneur a donné pour l'édification de l'Église nous est décrit, est pour nous, est à notre disposition, et par la grâce de Dieu, on peut le voir et en prendre part. Ici, Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ça, sa poursuite, ça pour objectif ce qui est écrit dans le prochain verset, c'est-à-dire au verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que cela soit dit. Et nous avons, dans les dernières réunions, eu à lire dans les différentes prédications de frère Branham. Et aujourd'hui, j'ai amené la prédication avec moi. Est-ce que Dieu change sa pensée sur sa parole? Et ici, frère Branham montre que Dieu reste toujours dans ce qu'il a décidé, dans ce qu'il a promis et dans ce qu'il a dit, sans considérer. Ce n'est pas, on ne peut pas le changer. Mais il dit ici que depuis le commencement, il y a eu deux différentes sortes de semences. Et les deux semences ont construit des autels, ont adoré, s'il vous plaît, le même Dieu, ont invoqué le même Dieu, mais quoi qu'ils avaient ils étaient de deux différentes semences. Je vous lis à la page 12. Est-ce que Dieu change sa ses pensées sur sa parole. Ensuite, est-ce que Dieu peut dire quelque chose? Et après, expliquer et dire, je regrette de l'avoir dit. C'est pas possible. Ce que Dieu a dit, cela est valable pour l'éternité. Alors, est-ce qu'ensuite, citation, est-ce que Dieu peut reprendre une parole qu'il a prononcée après qu'il ait prononcé? Non, il ne peut pas le faire. Il n'a pas besoin de reprendre ce qu'il a dit. Ça, c'est justement une parole qui est déjà irrévocable, qui ne peut pas changer. Elle demeure éternelle, ce que Dieu a dit dans sa parole. Et ensuite, nous lisons ici, Israël, dans l'Ancien Testament, est un symbole, une image de l'épouse du Nouveau Testament. Elle est sortie du monde et elle se trouve en chemin vers Canaan. Bien sûr que nous sommes tous encore, nous sommes sortis du monde, appelés à sortir du monde, et nous avons abandonné le chemin large et nous avons eu la grâce de suivre le Seigneur. Et ensuite, il y a plusieurs points qui viennent, que frère Branham mentionne et tire des comparaisons. Je lis à partir de la page 14. Nous pouvons voir que cela a toujours eu lieu, que quand le naturel et le spirituel se rencontrent, quand par exemple l'Église et les organisations se rencontrent, il y a une confrontation. Il y a toujours une confrontation, comme autrefois, entre Caïn et Abel, et Saül et Jacob, Ismaël et Isaac. Il y a toujours eu une confrontation. Et ensuite, ici, cela vient de ce qu'il y a de la jalousie dans le cœur, la jalousie qui est en jeu. Et cette jalousie cause, bien sûr, des comparaisons naturelles et des imitations. Ensuite, frère Branham vient directement à parler du sujet, et du sujet en fait bien précis qui traîne dans cette prédication, et il dit la chose suivante, citation. Et Abel, contrairement à Caïn, avait apporté à Dieu un sacrifice qui était agréable, qui a été agréé, et Dieu a confirmé le sacrifice d'Abel en descendant et en agréant son sacrifice. C'est ainsi que la jalousie est montée au cœur de Caïn. Il était jaloux de son frère et l'a tué. Et là aussi, nous devons faire attention, réellement très, très, très faire attention, que rien en nous monte de semblable. Il est écrit ici en cours, ensuite, cela a commencé au commencement, alors que le naturel et le spirituel s'étaient rencontrés. Malgré tout, Caïn et Abel adoraient le même Dieu. Les deux avaient bâti un autel. Soyons sincères. Toute la chrétienté, le monde chrétien, à leurs propres yeux, est croyant. Des églises, des réunions, des cultes ont lieu partout sur toute la terre. Et tous ont la même Bible. Et tous prient. Mais qui pense à ce que notre Seigneur a dit? Et cela dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 24. Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu cherche des tels adorateurs qu'il adore en esprit et dans la vérité. Il ne s'agit pas seulement de l'adorer, mais de l'adorer en esprit et en vérité. Et notre Seigneur a dit, quand vous priez, ne faites pas beaucoup de paroles comme beaucoup le font. Ensuite, frère Branham dit, c'est pour cette raison que Abel a rapporté un agneau et Dieu a agréé son sacrifice. Abel l'a fait par la foi, par la révélation. Il n'y a pas un autre chemin. La chair et le sang ne te l'a pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. La vraie foi est une révélation et vient de Dieu et nous conduit, nous ramène à Dieu. Et nous l'avons déjà. Il n'y a pas un autre chemin. Déjà, Abel et tous les autres l'avaient. C'est ainsi que la Bible n'avait pas encore été écrite à l'époque, autrefois. Donc, vous voyez que l'origine de la justice est la vérité de Dieu qui t'est révélée. Et c'est de cela que l'Église du Dieu vivant est fondée. Pas seulement une vérité que nous lisons dans la Bible sans qu'elle nous soit révélée, sans en recevoir la révélation, mais une vérité écrite qui est vivifiée par l'Esprit, qui t'est révélée en tant que vérité de Dieu, à toi et à moi, personnellement révélée. Ensuite, nous continuons à lire. Soyez attentifs que c'est par la foi que Abel, c'est par la foi que Abel a apporté un sacrifice plus agréable que celui de Caïn. Le croyant charnel pensait que ça c'est l'œuvre de sa propre main, ce serait l'œuvre de ses propres mains. L'homme charnel a pensé qu'un sacrifice devait être l'œuvre de ses propres mains. C'est ainsi que Caïn a apporté le produit de son champ, les fruits. Et Dieu ne l'a pas exaucé et agréé. Ensuite, frère Branham vient attirer une comparaison entre Abraham et Moïse et tout ce qui déjà était dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que Corée et Dathan se sont révoltés contre Moïse? Et comment est-ce qu'une révolte, l'une après l'autre, a suivi? Et comment est-ce que l'une a conduit dans l'autre? Et comment est-ce que parmi le peuple de Dieu, toujours de nouveau, il y a eu des problèmes? Pourquoi? C'est parce qu'il y avait deux sortes de lignes de semences. Et ensuite, frère Branham dit que, alors que Judas et Jésus se tenaient l'un en face de l'autre, il y avait eu une confrontation. L'un était le Fils de Dieu et l'autre, je m'excuse, mais ici frère Branham dit clairement, il était le fils de Satan. Et comme cela était le cas entre Caïn et Abel, c'est ainsi qu'il y avait aussi entre Jésus et Judas une confrontation. Oui, ils se sont frottés. Ensuite, frère Branham vient à parler de Jacob et d'Ésaü. Il continue et écrit ici à la page 17 en allemand. Soyez attentifs que nous devons toujours connaître l'origine, la raison que pourquoi est-ce que le naturel a toujours haï le spirituel? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Caïn haïssait Abel? Pourquoi est-ce que Corée? Qu'est-ce qui a fait que Corée haïssait Moïse? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Judas haïssait Jésus? On pourrait continuer ainsi. Cela fait en sorte que la semence charnelle haït la semence spirituelle, comme Caïn au commencement haïssait Abel. Et ensuite vient quelque chose de particulier, ensuite nous le lisons. Et cela cause qu'ils se détruisent. S'il s'agit toujours de la destruction, l'adversaire a comme objectif de nous détruire. Le Seigneur lui vient pour nous édifier, pour nous faire du bien, pour que nous puissions vivre et avoir sa vie en abondance. Continuons à lire ici. Ils essayent d'émettre leur influence sur les autres pour détruire. Jusqu'à aujourd'hui encore, je n'ai même pas eu ne serait-ce qu'une seule pensée de détruire un homme. Mais pourquoi? Nous sommes tous dépendants de la grâce de Dieu. Pourquoi haïr? Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais même pas comment on fait. Est-ce que vous savez comment on haït? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment haïr. Je ne sais pas. Je suis sincère. Je vous dis, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais pas comment ils font pour haïr. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut haïr. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment on peut haïr. Je ne sais pas comment ils font. Mais ici, nous avons la haine, la jalousie était toujours la raison, la cause, d'une manière que d'un côté, donc ils voyaient que Dieu bénissait cet homme, bénissait, et c'est ainsi qu'ils ont commencé. Cela ne les plaisait pas. Ils ont aussi imité. Donc ils ont aussi bâti un autel. Ils ont aussi adoré. Ils ont aussi invoqué Dieu. Et ensuite la réponse vient de l'autre côté. Et de leur côté, cela ne vient pas. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons atteint ce point où nous avons compris que nous n'avons pas besoin de chercher d'être reconnus ou bien en tant que église de trouver la faveur de qui que ce soit. Comme Paul le dit dans Galates chapitre 1, si je cherche encore la faveur des hommes et d'être reconnu par les hommes, ça veut dire que je ne suis pas encore un serviteur de Christ et que je n'ai pas son bon plaisir. Qu'est-ce qu'est l'Église? L'Église, elle est une tente d'assignation de Dieu, un endroit de sa manifestation. Elle a la plus grande détermination qui pourrait exister sur terre. Et cette plus grande détermination a été donnée à l'Église du Dieu vivant. Ça, c'est notre devoir et notre ordre et notre commission. Et ici, dans cette brochure, on pourrait encore continuer à lire différentes citations. Frère Branham montre toujours de nouveau, d'une manière nouvelle, l'importance des choses et de quoi il s'agit. C'est-à-dire que nous puissions être et avoir en nous et avoir reçu la semence incorruptible de la parole de Dieu, sans interprétation, et que par la nouvelle naissance, l'homme nouveau qui est créé à l'image de Dieu, comme c'est écrit dans Éphésiens 4, versets 22 et 24, comme c'est écrit ici, revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que pour la divinité. Mais il faut d'abord naître de nouveau pour ensuite pouvoir revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que pour la vérité. Donc, après que nous ayons reçu tout cet enseignement, bien-aimés frères et sœurs, et aussi expérimenté les bénédictions de Dieu, en nous, il y a un grand désir, c'est que Dieu puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit, et cela dans notre vie et dans l'Église et parmi nous, que Dieu ait la première place et ait sa volonté, et que tous trouvent leur place, et cela en accord et en volonté parfaite avec la parole de Dieu. Particulièrement vous, sœurs, vous savez de quelle manière frère Branham a particulièrement montré la place des sœurs qu'il voulut de Dieu. Et ici, j'ai eu déjà à le dire il n'y a pas longtemps. Jamais. Donc, personne ne peut être plus reconnaissant que les sœurs, que les femmes, que Dieu a remis à l'homme toute la responsabilité. Et il est encore écrit que le chef de Christ, c'est Dieu. Et le chef de la femme, c'est l'homme. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 11. Nous avons réellement l'ordre divin, ici, dans les Saintes Écritures, établi. Cela a été établi et nous croyons que le Seigneur, aussi en ce qui concerne ce point, nous aidera tous, doit nous aider, que jamais de nouveau encore une déviation ou quelque chose de semblable se passe d'une manière que le nom du Seigneur soit sali, mais que tous ceux qui veulent maintenant être remplis du Saint-Esprit, que réellement ils aient reçu d'abord de Dieu un nouveau cœur, une nouvelle vie, et que nous vivons seulement en harmonie divine les uns avec les autres, et que nous partageons les différents services l'un avec l'autre, et que le peuple de Dieu soit servi. Tous, vous connaissez assez les Saintes Écritures. Du temps des apôtres, les ministères et les dons ont travaillé ensemble. L'un allait avec l'autre. Et il est écrit, par exemple, la prophétie pour la consolation et l'exhortation et l'avertissement. Tout est écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 14. Et ensuite, nous avons bien sûr aussi vu comment est-ce que des hommes ont abandonné ce que Dieu avait voulu et établissent leur propre volonté. Et leur propre volonté s'est infiltrée. Et par leur propre volonté, il se passe des choses terribles sur terre. La chose la plus grave a eu lieu au ciel. On peut le lire sur la chute de Lucifer. Il est écrit dans Ésaïe, dans Ézéchiel. C'est au moment où il a voulu avoir sa propre volonté. Ça a été au même moment sa chute et qu'il a attiré tout après lui, et donc un tiers des anges est allé avec lui qui se tenait sous son influence. C'est toujours comme ça. Et ici est le point, bien frères et sœurs, quoi qu'il était loin, et nous avons aussi à cet endroit vu que la propre volonté apporte toujours de la destruction et déchire et sépare et divise des croyants. Et c'est toujours la propre volonté de l'homme. Et c'est ainsi que l'inimitié et la haine s'établissent. Et alors, il nous est exhorté de demeurer dans la parole, de demeurer dans le Seigneur, d'être attentif à ce que nous ayons dans notre cœur et dans nos pensées. Aucune volonté qui vienne de nous-mêmes. Mais que nous puissions dire sincèrement, Seigneur, pas comme je veux, pas ce que je veux, mais détermine et décide-toi, toi, tout chose. Et en cet endroit, nous avons des années, nous avons eu des années de bénédiction divine. C'est où réellement la propre volonté vint et il y a eu une destruction qui a eu lieu après que la propre volonté a été manifestée dans quelqu'un, dans une personne. Comme on pouvait pas s'imaginer. Je l'ai dit déjà. Je me suis proposé de le faire encore aujourd'hui pour la dernière fois. De ce beau temps, des années 70, de ce temps béni, dans ce temps où il y avait des dons et des ministères qui travaillaient ensemble, et cela sous la directe conduite du Saint-Esprit pour la bénédiction et l'édification de l'Église. Je me rappelle de ce temps. Je me suis écrit certaines prophéties de ce qui nous avait été dit avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Mon peuple, prête l'oreille à ma voix dans ce temps. Vous vivez dans un temps merveilleux et glorieux. De chaque pays, je joins des membres l'un avec l'autre en tant que, comme des pierres précieuses, je les joins pour former mon épouse. Et pas pour la gloire d'un homme. Ça a été dit en 1970. Ainsi parle le Seigneur, mon peuple. Parmi vous, j'ai placé la pierre angulaire. Le fondement a été placé clairement et est visible. La jalousie. J'ai veillé de manière jalouse sur mon œuvre, jaloux, et j'ai fait en sorte que rien ne sorte. En 72, 1er septembre, ainsi dit le Seigneur, mon peuple, vous êtes ceux qui ont écouté le message d'aigle, vous êtes ceux qui ont reçu des paroles d'ange. Mon évangile éternel, qui existait déjà avant même la fondation du monde. Et voilà, vous êtes le peuple, vous êtes le troupeau, qui verront quand la pierre de fête sera placée. Et vous entrerez dans l'achèvement de toutes choses. Tous nous savons que frère Branham a parlé de la pierre de fête. Zacharie 4, la pierre de fête sera en tant que dernière placée, la pierre, tout à fait en haut de l'édifice. Elle sera placée Et cela, sous le cri, grâce, grâce, salut, salut soit à elle. Et ensuite, il est écrit encore ici, ainsi dit le Seigneur, mes saints, mon épouse, rassemblés à cet endroit où j'ai placé mon temple, mon sanctuaire. Des choses merveilleuses ont été dites ici. J'ai parlé depuis des temps anciens avec vous que je vais apporter des perles des différents pays pour la gloire de ma croix et pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de ma croix. J'apporterai des perles de différents pays. Et vous voyez, vous voyez cela accompli dans cet endroit. Car l'alliance et l'arc de mon alliance, je l'ai détendu sur vous. Et j'ai parlé à des peuples et j'ai béni mon épouse et j'ai révélé ma parole. Cela a été donné de mon sanctuaire le 7-9-75. La dernière prophétie, encore une prophétie. Ainsi parle le Seigneur, mon peuple. Soyez plein de consolation. Soyez consolés pendant cette heure. Dans cette heure, car sachez, ma grâce est sur vous, et j'ai planifié ces jours et ces heures. Ma grâce est sur vous, et toujours de nouveau, je vous visite. Oh, si vos yeux pouvaient être ouverts, et que vous pouviez voir l'arc-en-ciel, l'arc de mon alliance, étendu sur ce lieu. Et pas seulement ça, mais aussi dans la colonne de feu. Je suis ici, dans ce lieu, et je suis descendu parmi vous, sur cette plateforme. Moi, je suis avec vous, le 15-4-1975. Pourquoi est-ce que j'ai dit tout à l'heure ce que j'ai dit? Avec une grande douleur. Probablement, je le dis pour la dernière fois, mais avec une grande douleur. Et ensuite arriva ce jour, arriva cette heure, où justement, de cette bouche, c'était plus le Seigneur qui parlait. Subitement, les paroles, destruction, vint de la même bouche de cette personne qui a fait cette prophétie que je viens de lire. Ensuite, la propre volonté, malgré l'onction. Et ensuite, quand ils ont quitté l'église, et je le dis pour avertir pour toute éternité, si quelqu'un quitte l'église, se détache, alors il se détache de Dieu. Il quitte la conduite du Saint-Esprit. Car les dons doivent toujours être exercés dans l'église. Jamais à l'extérieur de l'église. Un don doit être toujours exercé dans une église. Jamais à l'extérieur. Et je vous dis, et toujours dans l'église, et seulement dans l'église, et c'est dans l'église que Dieu a établi justement des dons pour l'édifice de l'église. Si un don est pour l'édifice de l'église, il va être exercé dans l'église. Bien, mes frères et sœurs, je regarde aussi dans les années 70 et 80 en arrière, dans les temps dans lesquels nous étions arrivés. Et alors, asseyez-vous bien, je ne veux rien dire, mais je dois le dire. Parce que justement, dans ces derniers temps, il y a eu tellement de choses qui ont été de nouveau retouchées des années 79 et 78. Et il faut que cela soit dit de manière très claire et encore une fois. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais la même personne par laquelle Dieu avait parlé, au moment où l'adversaire a pris possession d'elle, elle a eu le courage. Elle est venue dans le bureau et elle a pris 82 prophéties qu'elle avait apportées et faites de toutes ces années-là. Elle a eu le courage de les déchirer et de les jeter dans la poubelle. Les mêmes prophéties qu'elle a faites elle-même, elle les a déchirées dans la poubelle. Je le dis, au moment où quelqu'un, et qu'il soit l'homme le plus béni, qui ait le plus grand ministère, je vous dis qu'il est le, qu'il soit ouin comme il veut. Au moment où quelqu'un devient orgueilleux et commence à avoir ses propres pensées et est prétentieux et a ses propres pensées, sa propre volonté, déjà c'est trop tard. Lucifer était ouin. Il avait même plus à dire que Gabriel et que tous les autres anges. Il avait, et aujourd'hui, il a encore tout son groupe sur lequel il établit son influence. Ensuite, il y a ce grand problème qui a suivi. Après la séparation de l'église, après avoir quitté l'église, alors c'est à un moment-là que la déclaration a été faite. Alors ici, tout est fini, rien, plus rien ne se passe. Ceux qui venaient se réunir ont été rechassés, ramenés, on dit, repartent à la maison, ici il n'y a plus de réunion. Et pourquoi est-ce qu'ils venaient avant alors, hein? Tout, quand ils venaient, dans le temps où ils venaient, tout était le soleil qui brille. Et au moment où ils ne viennent plus, maintenant il n'y a plus de réunion. Non. Alors ça a été la haine et la jalousie et tout ce qu'on peut être. Tant qu'ils venaient, tout allait bien. Le moment où ils ne venaient plus, alors tout ne va plus. C'était seulement la destruction et encore la destruction qui était dans leur pensée. Je le dis devant Dieu, si nous nous attendons à ce que le vrai Saint-Esprit soit répandu, alors s'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, recevez-le dans votre cœur. Plus de propres chemins, plus de propres pensées, plus de propres volontés. Jamais prendre comme ça le don entre tes propres mains, mais te laisser toi-même entre les mains de Dieu pour que lui, il puisse exercer en toi le don qu'il t'a donné. Pas que ce soit toi qui exerces un don, mais c'est Dieu qui en toi exerce le don qu'il t'a donné. Comme il a été dit, le Fils ne peut rien faire en dehors de ce qu'il voit faire le Père. Je ne veux pas le dire ici, mais je vais le dire quand même, parce que cela m'est fait encore il n'y a pas longtemps comme reproche. On ne devrait même pas utiliser une telle parole ici devant tout le monde. Mais la même personne qui a apporté toutes ces prophéties que je viens de lire en juin 1979 est partie à Tucson, a entrepris un voyage à Tucson et elle a rencontré, elle a donné au frère Green la révélation que cet homme-là, Akrefeld, qui se dit serviteur de Dieu, est un homosexuel. Mon Dieu. La même personne. Elle est allée raconter au frère Green que ce monsieur-là, Akrefeld, est un homosexuel, qui avait déchiré ses 82 prophéties et qui a jeté dans la poubelle. Elle a visité le frère Green et c'est elle qui lui a donné cette révélation que cet homme-là, Akrefeld, est un homosexuel. Donc le frère Searle et le frère Green ont écrit une lettre à tous les frères à l'intérieur du message. Ils ont averti tous de ne pas avoir de contact avec moi. Et ils ont demandé à tous ceux qu'on peut encore recevoir et accepter frère Frank. C'est ainsi que le meurtre a eu lieu jusqu'à aujourd'hui encore. Aucune parole a été reprise. C'est ainsi que cela est propagé encore jusqu'à aujourd'hui encore. Avec cet esprit, je l'ai dit aujourd'hui, pour vous faire savoir que Satan est un meurtrier depuis le commencement. Et que tous ceux qui se tiennent à sa disposition ont qu'une seule chose dans leur cœur, c'est de détruire, encore une fois détruire. Nous avons encore 10 minutes. Et les Écritures que Satan a donné à expliquer à cette femme est dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, au verset 10 et particulièrement au verset 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non, pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle s'est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, si elle est séparée. de cette écriture-là, qui, de manière claire, montre et témoigne que si, au moment où elle s'est déjà séparée, ici n'est pas écrit que si après 1979, elle se sépare. Ici, il est écrit que si la séparation a eu lieu, pas si elle a dans la pensée de le faire dans le futur, mais si elle a fait, pas seulement de dire, Paul a dit, bon, j'ai le droit de me séparer de toi, j'ai le droit, à condition que je reste seul. Non, Paul n'a jamais dit ça. Paul ne donne jamais le droit à une femme de se séparer à condition qu'elle reste seule. Il a dit que si elle s'est séparée, qu'elle reste seule, si ça a eu lieu, une parole seulement tordue par le diable, une seule parole tordue par le diable, comme autrefois, dans le jardin d'Éden, un seul mot tordu. Et déjà, tout a eu lieu. Bien-aimés frères et sœurs, je l'ai dit pour la raison suivante, que vous pouvez comprendre alors mon fardeau. Il s'agit du corps du Seigneur. Il s'agit de l'Église et de Jésus-Christ. Il s'agit de ceux qui doivent être appelés à sortir. Bien sûr que mon chemin n'est pas sur des roses. Ça, je ne le désire même pas. Mais que de telles choses soient dites et propagées dans le monde entier sur moi, ça, en fait, je ne l'ai pas mérité. Mais, c'est en fait l'adversaire. C'est le diable qui n'a rien d'autre à faire que de détruire et de vouloir détruire. Et c'est son devoir. Notre Seigneur est venu pour que nous puissions vivre et avoir la vie en abondance. Et pour que vous puissiez avoir une nuit sans pouvoir dormir, je vais vous dire encore la chose suivante. Le 11 janvier en 1997, cette personne prétend qu'une voix puissante, elle dit que c'était la voix de Dieu en 1997, et parle à sa fille aînée, et cette voix a dit, parce que autrefois tu t'es pas séparé de lui, alors moi je te sépare maintenant de lui, et tu vivras. La fille aînée de cette femme avait le cancer, et son état n'était pas bien du tout, et la proposition avait été faite qu'elle puisse se séparer de son mari et ensuite elle sera guérie et elle vivra si elle se sépare de son mari. Ouais. Et cela n'a pas encore suffi de dire cela à sa fille. La guérison n'a pas eu lieu. Au contraire, son état s'est toujours plus aggravé, et ensuite, donc infection cancer du poumon, et ensuite, donc, le 11-1990, la fille a écrit son divorce, a déclaré son divorce, a voulu se divorcer. Alors, de dire simplement, si tu t'es séparé et que tu n'as pas été guéri, alors tu dois divorcer pour vraiment être guéri. Donc la séparation, ça ne suffit pas. Si après cette séparation, tu n'es pas guéri, donc divorce carrément. Alors, le rendez-vous, c'était en novembre, en 1997. Et voilà, le mari, avec esprit, n'est pas venu au rendez-vous parce qu'il ne voulait pas être divorcé. Il n'est pas allé à la justice. Et voilà, en décembre 1997, la fille est morte du cancer du poumon, et 4 jours après, et c'est seulement 4 jours après la mort que son mari l'a appris. 4 jours après la mort que son mari l'a appris. Je le dis seulement pour vous montrer comment est-ce que Satan est cruel. Et si Satan reçoit quelqu'un sous son empire, alors c'est fini, tout est fini. Et les enfants, les 4 enfants de cet homme prétendent ou bien croient que leur mère devait mourir parce que le mari ne s'est pas laissé divorcer. C'est ainsi que, pour la dernière fois, je l'ai dit ici à haute voix, quand l'adversaire saisit quelqu'un sous son emprise Bien-aimés frères, au nom de Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, tout ce que Dieu fait doit être fait dans l'Église. Les dons, les appels ne sont pas une chose privée, mais ont leur place et doivent être exercés dans l'Église du Dieu vivant. Pas quelqu'un qui a un ministère et qui exerce son ministère dans une maison quelque part. Plus de propre volonté, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Résumons de quoi il s'agit. Dieu a un ordre sur terre. Mais Satan s'est donné ce droit, a demandé le droit de nous passer comme on passe le blé. Satan, n'est-ce pas, qui laisse tous les peuples en paix. Il se jette seulement sur le peuple de Dieu, sur le peuple d'Israël. Il laisse toutes les églises et il se jette seulement sur l'église de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, nous voulons discerner, et tel que frère Branham dans cette prédication l'a dit très clairement, si ces deux semences alignées là se rencontrent, il y a un frottement. Mais celui qui est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu. Il reçoit ce que Dieu dans sa parole a promis et a dit. Et il ne se laisse pas tromper, et il ne se laisse pas effrayé par le meurtre et par des déclarations de meurtre. Mais celui qui est de Dieu, il ne prêtera pas l'oreille à des calomnies, mais il prêtera seulement l'oreille à ce que Dieu a dit dans sa parole. Et c'est ainsi que nous allons de soi. Bien-aimés frères et sœurs, que au moins vous pouvez un peu mieux me comprendre, n'est-ce pas, quand frère Franck se tient devant ici, que vous le voyez devant, hein, que je suis parfois un peu triste. Ce n'est pas tous ces 25 ou bien 28 réunions que nous avons eues en Afrique, ou bien d'aller de ville en ville. Non, Dieu m'a donné un bon corps, un corps fort, une bonne condition pour les voyages. Non, c'est ce qui m'occupe, c'est les douleurs, c'est les difficultés à cause de l'Église. Je veux pas seulement appeler à sortir. Je veux que ceux qui sont appelés à sortir soient blanchis, préparés pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je veux expérimenter que Dieu puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit avec chacun de nous. Et que la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu, soit faite. Pas seulement écoutée et reçue, ou bien compris, ou bien, mais faite. Si quelqu'un, ou bien l'un ou l'autre, fait quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu. Alors nous avons un souverain sacrificateur qui intercède pour nous. C'est ainsi que cela a été écrit. Nous devons prier les uns pour les autres. Mais celui qui pêche volontairement, qui avec ce qu'il fait, il lit un esprit. Alors là, la patience de Dieu cesse. La grâce de Dieu cesse. Alors là, Hébreux 6, Hébreux 10 s'accomplissent. Que celui qui pêche volontairement, pour lui, il n'y a plus de grâce. Et plus de, mais l'attente terrible du jugement. Mais puisque nous vivons encore dans le temps de la grâce, que tous, particulièrement tous ceux qui sont touchés, qui ont été influencés d'une manière ou d'une autre. Et j'espère que ce sera pour la dernière fois. Tous ceux qui ont écouté des calomnies et qui se sont soumis à l'influence du diable. Il les a aussi emportés. C'est ou alors l'un ou l'autre. Celui qui ne reste pas sous l'influence divine, mais qui décide de se placer sous une autre influence. Il est simplement emporté par l'adversaire. Et il doit venir et confesser cela devant Dieu. Et demander pardon. Et à cet endroit où le Seigneur a béni, car la personne principale et tous les autres, qui que ce soit, celui qui veut trouver grâce devant Dieu, s'il vous plaît, à cet endroit, qui puisse apporter à cet endroit un sac avec de la cendre. Un sac avec de la cendre. Et le sac avec la cendre se mettre dans le sac. Et venir ici devant toute l'église et demander pardon devant Dieu, devant tous, dans un sac avec de la cendre. Et c'est comme ça que nous commençons pour avoir lieu. Bien, mes frères et sœurs, prendre un sac avec la cendre et se mettre là-dedans. Et confesser et demander pardon devant tous. Bien, mes frères et sœurs, le retour de Jésus-Christ est proche devant la porte. Et il est nécessaire que nous puissions devenir un seul cœur et une seule âme. Et que, je le dis, et que ce ne soient pas des hommes ici, dans l'église, qui sont assis, ou bien quelque part d'autres qui pensent en eux. Oh, mais devant là-bas, ils parlent. Mais Est-ce qu'il n'est pas ceci et cela? Est-ce qu'il n'a pas ici des fautes et des ceci et cela? Bien, frères et sœurs, soyons attentifs aux pensées que nous avons les uns contre les autres. Et que Dieu puisse nous garder de ça. Et qu'il puisse lui parler avec nous par son esprit et sa parole. Le Seigneur a une église telle que nous l'avons lue. Des adversaires ont, comme on a lu dans le psaume 74, 79, les nations se sont infiltrées dans ton sanctuaire et ont détruit. Mais nous avons aussi lu que Dieu a édifié, que Dieu a appelé et que tout revient dans l'état où Dieu veut l'avoir. Et c'est ainsi que nous le voyons aussi par le fruit qu'il a produit. Il a apporté, je le répète encore une fois, dans le cours. Nous avons une responsabilité devant Dieu. Et tel que l'adversaire a tué tous les prophètes et lapidé tous les hommes de Dieu, si aujourd'hui c'était différent, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne serait pas en ordre avec nous. Mais puisque nous n'avons pas de place dans ce monde et que tous les prophètes et les serviteurs de Dieu ont été mis à mort et lapidés, si la même chose nous arrive, cela prouve que nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur est le victorieux. À lui soit la gloire. À lui soit la victoire et le pouvoir dans toute l'éternité. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Jésus-Christ, notre Seigneur, aura une Église sans tache, sans ride et irréprochable. Et en montant, pendant l'enlèvement, l'accusateur des frères va être précipité sur la terre. C'est ainsi que cela a été écrit dans Apocalypse, le chapitre 12. Et c'est là qu'il pourra alors donc vraiment se défouler parmi ceux qui sont restés, Non, bien frères et sœurs, à notre Dieu soit la louange et la gloire et l'honneur. Je le remercie de ce que, jusqu'à aujourd'hui, malgré tout, il m'a conduit, il m'a dirigé. Par sa grâce, il m'a conservé. Et je l'ai dit de mon cœur, de tout mon cœur, je vous demande. Cela est venu de tout mon cœur et je vous demande de penser à moi dans vos prières. Nous avons ensemble reçu la responsabilité devant Dieu. Oui ou non? Oui, tous. Nous avons tous des responsabilités devant Dieu que nous avons reçues. Et lui qui a commencé son œuvre, il achèvera pour le jour glorieux de son retour. Loué et exalté soit son nom. Loué soit notre Dieu pour la puissance de son sang. Nous sommes rachetés. L'accusateur des frères doit disparaître, doit se retirer. Qui veut accuser les élus de Dieu? Qui veut les accuser? Jésus-Christ est ici. Il les a justifiés. Et celui qui l'a justifié, il leur a aussi déjà donné la gloire divine. Portez avec moi l'opprobre du Christ. Et c'est ainsi qu'ensemble, nous allons nous réjouir quand nous serons auprès du Seigneur et que nous lui dirons ensemble merci de ce qu'il nous a secouru, de persévérer jusqu'à la fin. Et ensemble, nous voulons lui apporter l'honneur. Il achèvera toutes choses de manière merveilleuse. Loué soit son merveilleux nom. Amen. Nous nous levons pour ensemble remercier le Seigneur. Alléluia, alléluia. Frère Rousse, viens, toi, et prie encore, remercie encore avec nous, prie encore, remercie le Seigneur. Oui. Oh, bien-aimé Seigneur, notre Dieu, Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta parole précieuse encore ce soir. Oh, tu as parlé avec nous. Tu vis parmi ton peuple. Tu te manifestes. Alléluia. Oh, tu veux une église préparée. Si c'est toi qui le fais, nous ne pouvons rien faire, mais toi tu le fais. Alors nous regardons à toi, Seigneur. Secours-nous. Fais-nous grâce. Sois proche de nous. Fais-nous grâce, bien-aimé Seigneur. Nous te le demandons. Sois avec tous les faibles et les âgés. Sois avec notre frère. Sois avec nous tous, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Loué et exalté sois-tu. Sois apporté à ton merveilleux nom. Alléluia. 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 Père céleste, de tout mon cœur, je voudrais te remercier. Car tu as sauvé, tu as secouru, tu as aidé. Je te remercie pour ta parole, révélée, pour ta sainte volonté que tu as manifestée, que tu as révélée. Et tu détruiras les œuvres du diable. Oh, tu achèveras ton œuvre pour le jour de ton retour. À toi est la victoire, à toi est la puissance, à toi est la gloire dans toute éternité. Satan est un menteur, Satan est vaincu. La victoire de Dieu, qu'elle soit manifestée en Jésus-Christ, son Saint-Nom. Alléluia! 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 Alléluia, alléluia, gloire et honneur, gloire et honneur, alléluia, alléluia, gloire et honneur. Jésus est vainqueur, chantons ce cœur, Jésus est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Gloire soit à notre Dieu. Loué soit notre Dieu. Nous avons encore des requêtes pour des malades que nous allons encore apporter au Seigneur. Faisons-le maintenant. Grand Dieu, nous regardons au trône de la grâce et nous t'apportons tous les malades, tous ceux qui sont affligés. Tu es leur espérance et leur refuge. Tu es salut. Tu es celui qui guérit. Confirme ta parole. Aussi dans la tente de notre frère. Confirme ta parole. Partout. Dans tous les lieux. Oh bien-aimé Seigneur, ton Église a le droit d'expérimenter la confirmation et l'accomplissement de ta parole et de toutes tes promesses. Oh grand Dieu, oh grand Dieu, grand Dieu, à toi soit la reconnaissance, à toi soit l'adoration, à toi soit la louange dans toute éternité. Alléluia. 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 Bien-aimé Seigneur, toi, Dieu, Père éternel, bénis tous. Aussi dans le monde entier, qui peut-être, d'une manière inutile, sont rendus coupables et touchés. Mais bien-aimé Seigneur, ton Église vient de tous les peuples, elle est constituée de tous les peuples, les langues, les nations. Et le même appel, le même meurtre est rendu partout, est fait partout. C'est ce que nous te demandons, bien-aimé Seigneur. Nous te demandons, guéris toutes les douleurs et les blessures, délivre, bénis. Alléluia. Nous te remercions. Fais un commencement ici à Krefeld, ici dans le pays, dans toute l'Europe et dans le monde entier. Manifeste que tu es le victorieux, que tu as la dernière parole, le dernier mot. Alléluia. 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 Bénis aussi ceux qui, le frère touché. Dans son exemple, nous l'avons lu, le frère qui est ici, qui est assis maintenant parmi nous en haut sur, la, sur le balcon. Bénis-le et sois avec lui. Bénis toute sa famille. Bénis tous, ô bien-aimé Seigneur. Nous te demandons ta bénédiction. Répare le dégât. Tel que toi seul tu peux le faire en ceux qui viennent à toi. Ô bien-aimé Seigneur, accorde un changement, accorde la réconciliation, le pardon, la grâce et le salut, et que ta croix soit édifiée. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur te soit apporté à ton merveilleux nom glorieux. Alléluia, sois glorifié.
Amen.
Que chacun salue l'autre et souhaite les bénédictions de Dieu jusqu'à demain. Soyez remis entre les mains du Seigneur et sa grâce.